Radio Vatican, France-Afrique.
Chers amis, bienvenue à l'écoute de cette émission qui sera principalement consacrée au voyage du pape en Hongrie et en Slovaquie. L'actualité politique et sociale en Afrique concernera la Côte d'Ivoire, la Guinée et la Tunisie, entre autres.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Commençons l'actualité de l'Église par le 34e voyage apostolique du pape en Hongrie et en Slovaquie. L'avion menant le Saint-Père en Hongrie a atterri dimanche matin 12 septembre à l'aéroport international de Budapest. Une matinée dense pour le pape François avec plusieurs rencontres dans la capitale hongroise ainsi que la célébration de la messe de clôture du 52e congrès eucharistique international. À 11h30, sur la vaste place monumentale des héros de Budapest, le successeur de Pierre a célébré la messe de clôture de ce 52e congrès eucharistique international Ustasio Orbis, suivi de la prière mariale de l'Angelus. Les détails avec Delphine Allaire.
Évêque catholique, gréco-catholique orthodoxe, une messe aux accents orientaux célébrée par le pape François comme un pont entre Orient et Occident relié par une certitude, l'Eucharistie. Dans son homélie, François indique trois voies pour imiter Jésus à travers elle, l'annonce de Jésus, le discernement avec Jésus et le cheminement à la suite de Jésus. Le pape qui appelle à ne pas oublier que le Christ est un serviteur crucifié et non un messie puissant, l'Eucharistie nous le rappelle. Nous pouvons ajouter beaucoup de cérémonies, mais le Seigneur est là dans la simplicité d'un pain qui se laisse rompre, distribuer et manger. Après l'annonce, le discernement, le pape relève que lorsque la croix se profile avec la perspective de la souffrance, l'homme se rebelle.
La croce non è mai di moda. Oggi come in passato, ma guarisce dentro.
La croix n'est jamais à la mode aujourd'hui comme dans le passé, mais elle guérit au-dedans, a-t-il insisté. C'est devant le crucifié que nous faisons l'expérience d'une lutte intérieure bénéfique. D'un côté la logique de Dieu, celle de l'amour humble, de l'autre la logique du monde attaché à l'honneur, au privilège. Et troisième voie, le cheminement chrétien. Il n'est pas une poursuite du succès, mais il est recul et décentrement libérateur, indique le pape en concluant ainsi. C'est là que nous pousse l'Eucharistie, nous sentir un seul corps, nous rompre pour les autres.
Le pape François, juste avant la récitation de la prière de l'Angelus, s'est adressé au peuple hongrois, le remerciant pour son accueil. Il a souhaité que la croix soit pour ce pays un pont entre le passé et l'avenir. Le pape François a adressé de nombreux remerciements au terme de ce voyage de quelques heures en Hongrie et notamment aux autorités civiles et religieuses pour leur accueil. Le Saint-Père a tourné son regard vers la grande famille chrétienne hongroise. Je désire l'embrasser dans ses rites, dans son histoire, dans les sœurs et dans les frères catholiques et ceux d'autres confessions, tous en marche vers la pleine unité. Retournons à présent sur le départ du pape de Rome dimanche matin. Après avoir décollé à 6h, heure locale de l'aéroport de Rome-Fiumicino, l'Airbus A320 transportant le pape François, son entourage proche et 78 journalistes est arrivé à destination à 7h42. Le pape a adressé les messages de salutation aux autorités des pays survolés. Au président italien Sergio Mattarella, François a exprimé les souhaits sincères de sérénité et un engagement généreux envers le bien commun. Au président de la République de Croatie, Zoran Milanovic, le pape a adressé ses meilleurs vœux ainsi que les bénédictions divines de paix et de bien-être à toute la nation croate. Dans une brève salutation aux personnes à bord, le pape a salué Monseigneur Guido Marini, maître des célébrations liturgiques pontificales, et Monseigneur Dieudonné Datonou, diplomate béninois de la secrétaire d'État en charge de l'organisation de ce voyage. Tous deux prennent part à leur dernier voyage apostolique puisqu'ils ont récemment été nommés évêques. Une fois arrivés en voiture, place des Héros, lieu emblématique de la capitale hongroise, le pape a rencontré le président de la République de Hongrie, János Áder, ainsi que le premier ministre Viktor Orbán au musée des Beaux-Arts. Parmi les différents thèmes abordés, le rôle de l'Église dans le pays, l'engagement pour la sauvegarde de l'environnement, la défense et la promotion de la famille. C'est dans ces lieux abritant la plus grande collection d'art de Hongrie que le Saint-Père a également rencontré l'épiscopat hongrois. L'Église en Hongrie, avec sa longue histoire marquée par une foi inébranlable, par des persécutions et par le sang des martyrs, est associée de façon particulière au sacrifice du Christ. Beaucoup de frères et sœurs, beaucoup d'évêques et de prêtres ont vécu ce qu'ils célébraient sur l'autel. Ils ont été moulus comme des grains de blé afin que tous puissent être nourris par l'amour de Dieu. Ils ont été pressés comme des raisins pour que le sang du Christ devienne la lymphe d'une vie nouvelle. Ils ont été brisés, mais leur offrande d'amour a été une semence évangélique de renaissance plantée dans l'histoire de ce peuple. Après la rencontre avec le président de la République de Hongrie, János Áder, ainsi que le premier ministre Viktor Orbán, puis avec les évêques du pays au musée des Beaux-Arts, le pape s'est adressé aux représentants du Conseil œcuménique des Églises et à des communautés hébraïques de Hongrie qu'il a dit voir comme des frères dans la foi d'Abraham, notre père. Le Saint-Père a salué le parcours de communion accompli, invitant à prier ensemble les uns pour les autres. Puis, à 14h, heure de Rome, le pape est retourné à l'aéroport de Budapest afin de prendre l'avion pour la Slovaquie voisine, seconde étape de son voyage. Les détails dans nos prochaines éditions. Passons à présent à la rétrospective de l'actualité de l'Église en Afrique. Commençons cette rétrospective par la République démocratique du Congo, nouvelle supérieure générale chez les sœurs de la Sainte Famille de Kisangani. Notre correspondant nous en a parlé cette semaine.
La nouvelle supérieure générale des sœurs de la Sainte Famille de Kisangani s'appelle Nathalie Marie-Henriette Mouze Mubavu. Elle a été élue lors du 12e chapitre général de la congrégation diocésaine tenu récemment au grand séminaire Saint-Augustin de Kisangani. La nouvelle supérieure générale s'en remet au Seigneur et compte sur la prière.
Parce que je sais que c'est un service qu'on me demande. Un service très lourd qui me demandera beaucoup de sacrifices. Et je sais qu'avec l'aide du Seigneur et le concours de prière de mes sœurs, de mes connaissances, je fais confiance au Seigneur. C'est ça ma prière de chaque jour que je demande à Marie. Ma mère, aide-moi et prie pour moi afin que je puisse réaliser ma mission selon la volonté de Dieu.
La nouvelle supérieure générale, sœur Nathalie Mouze, aura pour assistante générale la sœur Marie-Angèle Pupukabo. Le chapitre général des sœurs de la Sainte Famille de Kisangani a aussi élu 5 conseillères générales. Les sœurs Marie-Suzanne Lihimbi, Agnès Boulaya, Marie-Marceline Otemakoy, Marie-Claire Chitona et Marie-Thérèse Mafoué. Jean-Baptiste Malenge Kalunzu pour Radio Vatican.
Au Bénin, notre correspondant local nous a fait part des vœux perpétuels et jubilés de vie religieuse chez les sœurs oblates catéchistes petites servantes des pauvres mercredi 8 septembre en la solennité de la nativité de la Vierge Marie à l'église Saint-Antoine de Padoue d'Abomey-Calavi dans l'archidiocèse de Cotonou.
Elles étaient au total 11 religieuses de la congrégation des sœurs oblates catéchistes petites servantes des pauvres au CPSP du Bénin à remercier le Seigneur le mercredi 8 septembre 2021 en la solennité de la nativité de la Vierge Marie à l'église Saint-Antoine de Padoue d'Abomey-Calavi dans l'archidiocèse de Cotonou, respectivement pour 6 noces d'argent et 5 noces d'or de vie consacrée. C'était à l'occasion de l'émission des vœux perpétuels de leur jeune sœur Marceline Zounoukon dans leur famille religieuse au cours de la messe d'action de grâce présidée par l'évêque de Porto-Novo, Monseigneur Aristide Gonzalo, assisté de son homologue de Dassa-Zoumé, Monseigneur François Nyonkhosou, avec la concélébration de nombreux prêtres. Dans son homélie, Monseigneur Gonzalo s'est adressé aux jubilaires.
Ma chère fille Marceline, tu vas t'engager pour toujours sur le chemin de la pauvreté vers la recherche prioritaire du royaume de Dieu. Prends modèle sur ce Joseph. Si, à l'exemple de Joseph, tu pratiques la chasteté, tu auras comme lui les faveurs de Jésus et de Marie. Joseph obéit. L'obéissance seule, dit saint Augustin, vaut mieux que toutes les vertus. Mes chères sœurs, vous qui célébrez vos noces d'argent et vos noces d'or, soyez humblement joyeuses et fières d'avoir été choisies par Dieu depuis 25 ou 50 ans pour que votre féminité soit maternellement la plus féconde.
Guy Dosuyovo, Cotonou pour Radio Vatican.
La congrégation des sœurs de l'Annonciation de Bobo Dioulasso au Burkina Faso s'est agrandie avec la profession temporaire de nouvelles religieuses.
La congrégation des sœurs de l'Annonciation de Bobo Dioulasso s'est agrandie avec la profession temporaire des sœurs Elisabeth Zongo, Oudette Ouedraogo, Micheline Ouedraogo, Raissa Bondé, Juliette Ayaro, Christine Diarra et Marie-Noël Duyon. La messe des vœux a été présidée au noviciat des Sabas à Samangan près de Bobo Dioulasso par Mgr Laurent Dabiré, évêque de Dori, en présence de l'ordinaire du lieu Mgr Paul Ouedraogo et de nombreux prêtres concélébrants des diocèses du Burkina et du Mali. Mère Jeanne Kanyala, nouvellement élue, exprime sa joie d'avoir reçu les vœux de ses sœurs.
C'est une grande joie qui m'anime. Cette jeune sœur, vraiment, je vois les 7 sacrements. Comme l'évêque l'a dit, c'est la perfection. Pour moi, c'est des sentiments de joie parce qu'elles viennent enrichir notre famille religieuse dans sa marche à la suite du Christ et dans la grâce que le Christ nous donne de commencer à cheminer vers nos 75 ans en 2023.
Cette joie de la mère est aussi celle des élus du jour.
Sœur Raissa Bondé, à ces jours, ce sont des sentiments de joie et de reconnaissance qui m'animent. Une reconnaissance à l'égard de Dieu qui m'a donné la grâce de faire un pas dans la vie religieuse.
À la fin de la messe, les jeunes sœurs ont reçu de la mère Jeanne Kanyala leurs affectations dans différents diocèses du Burkina et du Mali. Paul Dawagadougou pour Radio Vatican.
En Côte d'Ivoire, la paroisse Saint-Louis-Roi des Bimpé dans l'archidiocèse d'Abidjan a été consacrée au Seigneur dimanche 5 septembre par le cardinal Jean-Pierre Coutouin.
27 ans après son érection en paroisse, l'édifice religieux Saint-Louis-Roi des Bimpé a été consacré au Seigneur par l'archevêque d'Abidjan. Un moment d'action de grâce et de réjouissance pour les filles et fils de ce village, en particulier les fidèles paroissiens qui sont venus en grand nombre pour magnifier les bienfaits du Seigneur. Le cardinal Jean-Pierre Coutois, qui présidait l'Eucharistie dans son homélie, les a invités à être désormais des porteurs de l'espérance de Dieu à ceux qui souffrent.
Cette espérance de Dieu qui redonne la vie et fait toute chose nouvelle, c'est celle qui devra désormais vous habiter. À quoi auront servi les 27 années de sacrifices consentis pour arriver à offrir à Dieu cette belle maison si vous-même n'êtes pas partie prenante de cette espérance? Désormais, fils et filles de ce village des Bimpé à Kéouan, chrétiens de cette paroisse Saint-Louis-Roi, vous voici investis porteurs d'une nouvelle mission. Annoncez à tous l'espérance que Dieu veut pour ceux qui souffrent.
Notons que l'église paroissiale Saint-Louis-Roi des Bimpé, dont l'archidiocèse d'Abidjan a été érigée en 1950, et le besoin d'avoir une nouvelle église plus grande a constitué la pose de la première pierre en 1994. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Le président tunisien Kais Saied a annoncé dans la nuit de samedi à dimanche la nomination dans les plus brefs délais d'un nouveau gouvernement et évoqué une réforme à venir de la Constitution lors d'un bain de foule à Tunis. Le 25 juillet, M. Saied a limogé le Premier ministre, suspendu les activités du Parlement et s'est arrogé aussi le pouvoir judiciaire pour un mois renouvelable avant de prolonger ses mesures le 24 août jusqu'à nouvel ordre. Les putschistes au pouvoir en Guinée ont annoncé l'ouverture à partir de mardi d'une série de rencontres avec les forces politiques, la société civile et les représentants des compagnies minières pour préparer la formation d'un gouvernement. Ces rencontres, annoncées samedi soir par les militaires sur la télévision nationale, s'inscrivent dans la concertation qu'ils ont promise pour fixer les lignes d'une transition politique et former un gouvernement. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi à N'Djamena contre la junte qui dirige le Tchad depuis la mort d'Idriss Déby Itno, encadré par un fort dispositif policier. Des associations de la société civile ont appelé à manifestation contre la charte du Conseil militaire de transition dirigée par le fils d'Idriss Déby, Mahamat Idriss Déby Itno.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Ces marches régulièrement organisées depuis le décès de l'ancien président en avril dénoncent aussi l'attitude de la France accusée par une partie de l'opposition de soutenir le nouveau pouvoir. Le Tchad n'est pas un royaume, non au soutien de la France au système Déby père et fils, était-il notamment écrit sur les affiches des manifestants. La marche avait été autorisée par les autorités, la manifestation encadrée par des forces de l'ordre déployées massivement s'est déroulée dans le calme, selon la presse locale. Le père jésuite Martin Bahati nous présente le document du magistère du pape Fratelli Tutti.
Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous clôturons la lecture méditative du quatrième chapitre de la lettre encyclique Fratelli Tutti du Saint-Père François sur la fraternité et l'amitié sociale. Le tout dernier petit point est intitulé « À partir de la région de chacun ». Signalons que ce chapitre 4 portait sur ce que le pape appelle « un cœur ouvert au monde ». Revenant sur le point qui parle de « à partir de la région de chacun », justement, le pape pense que grâce à l'échange régional, par lequel les pays les plus faibles s'ouvrent au monde entier, l'universalité peut préserver les particularités. Il continue en montrant qu'une ouverture adéquate et authentique au monde suppose la capacité de s'ouvrir au prochain dans une famille de nations. Ainsi, stipule l'encyclique, l'intégration culturelle, économique et politique avec le peuple voisin devrait être accompagnée d'un processus éducatif qui promeuve la valeur de l'amour du prochain, qui serait, selon les documents, le premier exercice indispensable pour obtenir une intégration universelle saine. L'encyclique fait une remarque judicieuse en exposant une observation qui laisse voir clairement que dans certains quartiers populaires, où chacun ressent spontanément le devoir d'accompagner et d'aider le voisin, survit l'esprit du voisinage. Dans ces endroits qui préservent ces valeurs communautaires, écrit le pape, on entretient des relations de proximité caractérisées par la gratuité, la solidarité et la réciprocité à partir du sens de « nous » de quartier. Et le pontife de formuler un souhait en ce sens, puisse cela se vivre également entre les pays voisins, afin qu'ils soient capables de construire des relations cordiales de voisinage entre le peuple. Malheureusement, le constat serait le contraire. En effet, l'encyclique Fratelli Tutti montre que les visions individualistes se manifestent dans les relations entre pays. Le danger de vivre en se méfiant les uns des autres, en considérant les autres comme des dangereux concurrents ou ennemis, en vient à affecter les relations entre le peuple d'une même région. Le pape termine ce quatrième chapitre en démontrant que certaines nations puissantes et de grandes entreprises profitent de cet isolement et préfèrent négocier avec chaque pays séparément. En revanche, pour les pays petits ou pauvres, s'ouvre la possibilité de conclure avec leurs voisins des accords régionaux qui leur permettent de négocier en bloc et d'éviter de devenir des segments marginaux et dépendants des grandes puissances.
Le magazine de la femme nous conduit au Mexique où les évêques se prononcent sur la situation des femmes ainsi que sur la vie des enfants à naître. Notre magazine sur l'engagement de la femme au sein de l'Église et dans la société nous conduit au Mexique où les évêques se disent en faveur des femmes et du droit à la vie. La Cour suprême de justice de la nation a statué sur l'inconstitutionnalité de certains articles du Code pénal de l'État de Coahuila concernant la pénalisation de la femme qui recourt à l'avortement dans certaines conditions de ceux qui l'ont aidée et du personnel sanitaire qui l'a assistée. Les évêques du Mexique, après avoir étudié cette résolution et les arguments avancés lors des séances de discussion publique, considèrent que les problèmes rencontrés par les femmes et le statut juridique de l'enfant à naître sont une question complexe d'importance anthropologique, scientifique, philosophique et éthique qui ne peut être réduite à une résolution dans un tribunal. Par conséquent, il considère qu'il est essentiel que tous les acteurs sociaux, en dehors d'un climat de polarisation idéologique et sans s'accrocher à des positions politiques, s'engagent dans une nouvelle et profonde réflexion qui permettra de trouver une solution commune à un problème multidimensionnel et multifactoriel. Les évêques du Mexique proposent quelques points de réflexion pour guider la conscience des fidèles et des hommes de bonne volonté sous le titre « En faveur des femmes et en faveur du droit à la vie ». Aucune femme ne devrait être contrainte de prendre la décision dramatique de recourir à la pratique de l'avortement, affirment les évêques. Une situation qui, dans un grand nombre de cas, laisse de profondes séquelles de douleur. En ce sens, nous sommes conscients que la prison n'est pas une solution au problème des femmes qui avortent. L'Église, en tant que mère de tous les êtres humains, y compris ceux qui sont déjà conçus mais pas encore nés, doit également protéger par tous les moyens légaux leur dignité fondamentale de créature de Dieu et veiller à ce que leur droit à la vie ne soit pas conditionné, discriminé ou soumis à la volonté ou à la décision d'un tiers. Les évêques du Mexique regrettent que face au dilemme apparent de ne pas criminaliser la femme qui avorte et de préserver la vie de l'enfant à naître, la Cour ait choisi de rejeter la seconde solution sans chercher à sauvegarder les deux. Ils rappellent ensuite que le droit à la vie est reconnu et garanti tant par la Constitution mexicaine que par les traités internationaux les plus importants en matière de droits de l'homme. Les questions discutées ces jours-ci par la Cour suprême, conclut-il, exigent un engagement renouvelé de tous les protagonistes politiques de la communauté académique, des églises et des organisations civiles pour assurer la protection des femmes en toutes circonstances, qu'elles soient enceintes ou non, en respectant le droit humain à la vie de la mère et de l'enfant à naître.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de cette émission. Marie-Josée Moindo-Boisboilo qui vous l'a présentée vous dit merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Laudetur Jesus Christus.